Il s'agit de Israël et de la place essentielle d'Israël et de l'opposition de Satan à Israël. Je prends d'abord un verset, une parole de Jésus. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Dans Jean chapitre 4, verset 22, Jésus dit que le salut vient des Juifs. C'est essentiellement de la part de Dieu, un choix important, que nous ne pouvons pas contester. Même si Satan le conteste, et même si certaines autres religions le contestent. Nous allons d'abord prendre Genèse, chapitre 1, chapitre 3, verset 15. Dans ce passage, Satan est bien sûr comparé à un serpent qui traîne dans la poussière. Pour quelle raison? Il suffit de lire Ézéchiel 28 parce qu'il a perdu toute sa grandeur, il a été jeté à terre dans la poussière et il a perdu tout son éclat, toute sa gloire. Lui qui voulait s'imposer sur la montagne de l'Assemblée, donc à Jérusalem, lui qui était le gardien de l'Assemblée, du lieu de l'Assemblée de Dieu, et qui est devenu orgueilleux, qui a voulu s'égaler à Dieu, dans Ézéchiel chapitre 28. Eh bien, c'est de là qu'on peut comprendre que l'image du serpent, de l'animal qui se traîne, est un petit peu l'image par excellence qui symbolise la bassesse, la perte de la gloire de Satan. Et voici Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc il y a inimitié, hostilité, antagonisme entre Satan et la femme, que j'appellerai Israël, le peuple de Dieu élu, entre la postérité de Satan, donc tous ceux qui vont s'opposer au plan de Dieu, à la révélation biblique et à Jésus-Christ. Donc la postérité de Satan existe, elle est nombreuse sur terre. Nous le verrons dans l'Apocalypse tout à l'heure. Mais il y a une postérité propre à la femme, et cette postérité, c'est le Christ Jésus. Celle-ci t'écrasera la tête. Il s'agit de Christ qui, à la croix, par sa résurrection, a vaincu Satan. Et tu lui blesseras le talon, évidemment. Ça n'a pas été sans mal pour Jésus. Il a souffert infiniment face à l'hostilité de Satan. Déjà durant les 3 années de son ministère, et encore dans ce monde, Satan contrecarre l'action et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, mais sans succès évidemment. Donc l'échec de Satan est programmé sous le pied de la postérité d'Israël, c'est-à-dire sous le pied de Christ. Nous prenons les psaumes 91, 91, pour les Belges. Psaume 91. C'est un psaume qui concerne la victoire de Christ. Je vais commencer à partir du verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourtant, Christ est mort à la croix, mais ça veut dire que le fléau, c'est-à-dire la descente aux enfers et la condamnation éternelle, ne touche pas Christ. Et d'autre part, l'action de Satan est purement provisoire et tout à fait caduque concernant Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges, donc Dieu, à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc les anges vont ouvrir, c'est écrit 1000 ans avant Christ, hein, ils vont ouvrir le tombeau et permettre à Christ de sortir du tombeau. Ensuite, verset 13, tu marcheras sur le lion et la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est bien sûr quatre images qui représentent Satan. Verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Donc, Christ est rassasié par de longs jours éternels, hein, évidemment. Et il est dans la gloire. Je le délivrerai, je le glorifierai. Pour cela, vous allez voir le psaume 110 et vous aurez compris. Alors, la postérité de Jésus, de Israël, c'est Christ, et c'est elle qui marchera sur le lion, l'aspic, le lionceau, le dragon. Psaume 91, verset 13. Voilà, je fais des raccourcis, mais nous allons plus loin maintenant, dans Luc chapitre 10, versets 19 à 20. Luc 19, verset, Luc 10, versets 19 à 20. Les 70 revinrent avec joie. Nous savons que Jésus a envoyé les 12 en mission, mais qu'il a envoyé aussi par la suite dans Luc 70 disciples qui ne sont pas appelés apôtres, mais qui avaient quand même une autorité formidable, qui avaient une mission à côté des apôtres. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, l'échec de Satan est donc vu, visionné par Jésus, et Jésus le renseigne à ses disciples. Les démons sont jetés à terre, puissamment par Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc ce sont des versets que parfois certaines sectes évangéliques excessives emploient, mais ce n'est pas le but ici. Dans la parole de Dieu, c'est simplement que le chrétien a autorité sur les démons, sur Satan, quand il a une foi réellement ancrée en Christ, vivante en Christ, et qu'il a une parfaite obéissance en Dieu. Et à sa parole, il peut résister à l'ennemi. Nous ne pensons pas que nous pouvons défier Satan. Il ne faut pas chercher à faire des exploits contre Satan. Seul Dieu le brisera totalement. Ça serait une folie que de penser que nous avons une mission de combattre Satan à tout bout de champ. Et ce serait faire une réclame malsaine à Satan, que Jésus n'a pas faite d'ailleurs. Voyons Matthieu 16, verset 18. Pourquoi est-ce que je dis ça, que j'ai lu ce texte de Matthieu? Eh bien, parce que tous ces premiers chrétiens sont des juifs. C'est en Israël que le salut a commencé. Et c'est par Israël que le Christ, la postérité d'Israël, Christ a commencé son travail avec des juifs, des disciples juifs. Matthieu 16. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus affirme à Pierre, tu es Pierre, en grec c'est Petros, c'est-à-dire un caillou, pas plus, une petite pierre. Et qu'il le désigne comme un caillou, mais que sur cette pierre je bâtirai mon église, il se désigne lui-même, et le mot en grec c'est Petra, ce qui correspond à rocher, montagne, et ce sont les noms de Dieu, souvent c'est un nom approprié à Dieu, plusieurs dizaines de fois dans l'Ancien Testament. Donc sur cette pierre, ce rocher divin, je bâtirai mon église, c'est le Christ, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc la mort n'a plus d'autorité sur l'assemblée de Dieu, l'assemblée que Jésus va fonder, d'abord avec des juifs, puis ensuite avec des personnes de toutes les nations. Cette grande assemblée des enfants de Dieu, sauvés par grâce, par la croix, par le sang de Jésus à la croix. Ces jours des morts ne prévaudront pas contre elle. Pensons, dans le récit de l'Exode, quand les Hébreux sortent d'Égypte, du sang de l'agneau est mis sur le linteau et sur les montants des portes, et l'ange exterminateur ne détruit pas ceux qui habitent dans ces maisons marquées par le sang. De même, l'Église est sous le sang de Jésus, la vraie Église spirituelle, qui croit dans le salut par la grâce de Dieu à la croix, et rien d'autre, rien d'autre. Cette vraie Église est sous le sang de Christ, et le séjour des morts n'a pas d'autorité contre cette Église. Prenons maintenant Colossiens, chapitre 2, verset 15. Colossiens 2, 15. Voilà. Au verset 9, 2, 9 plutôt. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, en Christ, la postérité de la femme, la postérité d'Israël, née d'Israël. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, toute autorité. Donc Christ est le chef de tout ce qui peut s'appeler ange, que ce soit ange déchu, démon. Il a le droit de les écarter et dominer et d'avoir autorité sur eux. N'oublions pas, ne nous mettons pas à sa place, comme certains essayent, et ça leur coûte cher. Et en plus, il est le chef de tous les anges qui sont favorables à Dieu, qui sont obéissants. Allons un peu plus bas, au verset 15, c'est Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, devant tous les anges, devant tous les saints du paradis, devant Dieu le Père, et je pense devant tous les démons et Satan, il y a eu comme un défilé, un cortège, comparable à celui des grands généraux romains qui revenaient à Rome avec des milliers d'esclaves, avec leur armée, en triomphateurs, et qui avaient dépouillé des pays, dépouillé des chefs, des populations, et qui les amenaient à Rome comme esclaves. Eh bien, les démons, les dominations et les autorités sont traités en vaincus devant le trône de Dieu et devant la Jérusalem céleste. Et pourquoi ? Parce qu'il les a vaincus en triomphant par la croix. La croix et la résurrection, évidemment. Voilà. Maintenant, allons dans Apocalypse, chapitre 12. Le dernier livre de la Bible. Chapitre 12 d'Apocalypse. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Pour les catholiques, c'est la Vierge Marie, mais pas tous les catholiques. J'ai été moi-même catholique, j'ai été prêtre, et j'ai déjà lu des livres d'exégèse écrits par certains exégètes catholiques où ils ne considéraient pas que c'était Marie, mais ils considéraient que c'était le peuple de Dieu, par exemple, qui était vainqueur sur Satan, ou que c'était Israël. Il y a différentes pensées dans l'Église catholique, mais certaines pensées sont étouffées actuellement par le pouvoir absolu de Rome. Mais c'est pas pour ça que ces pensées, ces paroles n'existent pas. J'en étais témoin à l'époque où j'ai été prêtre, où j'ai été étudiant aussi. Donc, cette idée que Marie serait cette femme ne fait pas l'unanimité, mais c'est la voix de l'officiel pouvoir de l'Église catholique. Maintenant, d'autres pensent que ça pourrait être toute autre solution. Ils ont envisagé des tas de choses, et nous pensons en tout cas que cette femme, c'est Israël, c'est cette femme qui est citée dans Genèse 3:15. Et Elle est enceinte, elle criait, tant travaillée dans les douleurs de l'enfantement. Et au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Voilà la postérité de cette femme. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Après sa résurrection, hein, après sa mort et sa résurrection. Et nous voyons que Israël a une place importante, puisque c'est d'elle qu'est né cet enfant qui est élevé dans les cieux. Et au verset 10, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc Satan, qui a un accusateur, un délateur, qui voudrait que tous les croyants soient bannis par Dieu, eh bien cet accusateur est lui-même précipité. Alors au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous voyons que là, il y a des personnes qui ont cru au sacrifice de Christ, qui ont cru à la résurrection de Christ pour les péchés, pour le salut du monde, et qui ont donné leur vie, qui ont témoigné, et qui n'ont pas craint de mourir pour le salut des autres. Et nous voyons plus loin dans ce texte que le dragon, au verset 13, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc Satan s'attaque à Israël. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert pour 3 ans et demi. Donc les ailes du grand aigle a supposé que ce soit une nation, peut-être à la fin des temps, qui vienne au secours d'Israël pour la protéger. Bon, quelle peut être cette nation qui est représentée par un aigle? Les États-Unis peut-être, qui ont toujours été là pour soutenir Israël. Nous ne savons pas. Et de sa bouche, verset 15, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Donc, Satan mobilise des troupes en Irak et Syrie, dans l'ancienne Assyrie, pour détruire Israël. La terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. Donc il y a un conflit entre cette région syrienne, irakienne et le reste du monde. Il y a un combat et cette région hostile à Israël est vaincue. Regardez bien Ézéchiel 38, cette attaque qui va se faire un jour sur Israël, qui à mon avis est très proche, échouera évidemment, par la puissance de Dieu uniquement. Le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc Satan est irrité contre Israël et il va faire la guerre au reste de sa postérité, donc à tous ceux qui ont cru en Christ. Et bien sûr aussi aux Juifs convertis en Christ. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc nous voyons qu'à la fin des temps, il y a quand même un redoublement de l'hostilité. Est-ce que Israël a une place importante à cette époque-là? Beaucoup la nient. Les grandes églises, de nombreuses églises, au moins 85 à 90% des églises, baptistes, protestantes, catholiques, etc., nient une place essentielle à Israël dans l'eschatologie, c'est-à-dire dans l'accomplissement des prophéties à la fin des temps. Mais regardons nous-mêmes sur ce que dit la Bible. Apocalypse 14. « Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » L'agneau, c'est Christ. Sur la montagne de Sion, c'est Jérusalem. Et 144 000 personnes qui ont le nom de Christ et le nom de Dieu, le Père, le Dieu d'Israël, sur leur front. Ce sont bien sûr des Juifs. C'est au chapitre 7 que nous en avons la description. Apocalypse chapitre 7. Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Nous n'allons pas lire tout, mais regardons bien. Verset 4. J'entendis au verset 3, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Il s'agit d'Israël. J'entendis le nombre de ceux qui ont été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. La tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau, la tribu de Ruben, 12 000, la tribu de Gad, 12 000, d'Azer, 12 000, de Nephtali, 12 000, la tribu de Manassé, 12 000, la tribu de Simeon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, la tribu d'Isaacar, 12 000, la tribu de Zabulon, 12 000, la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. De quel sceau s'agit-il ? De Christ, évidemment. Après cela, donc la place essentielle de d'Israël à Jérusalem et pour le salut du monde et pour l'instauration du royaume de Christ et l'échec de Satan, évidemment, la place d'Israël est essentielle. Ensuite viennent toutes les nations qui ont reçu le salut grâce au témoignage d'Israël, de la Bible venue d'Israël. Après cela, je regardais, et voici, et de Jésus, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et donc, nous voyons que le salut de toutes ces nations, est dirigé par l'agneau. Verset 17, l'agneau qui est au milieu du trône les pètera, les conduira aux sources des eaux de la vie, Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Nous avons une image précise du rôle essentiel d'Israël dans ce texte. Il y a beaucoup d'autres textes. Je donne un exposé ici qui est très rapide. Je ne peux pas aller, il faudrait toute une semaine sur le sujet, quasiment. Je ne peux pas. Il y a des livres, il y a des exposés. Si vous désirez en avoir, vous m'appelez et je vous conduirai, je vous conseillerai certains livres. Dans le chapitre 19, dans le chapitre 21 plutôt, vous avez je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et vous avez là la place essentielle de Jérusalem. De Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que tout se joue. Et c'est la ville d'Israël que Satan veut s'approprier et dont il veut chasser Israël. Vous savez très bien que l'UNESCO n'a pas voulu reconnaître cette ville comme étant celle de Salomon, de David, ni d'Israël, et qu'il lui a donné un nom arabe, islamique. Eh bien, cette ville appartient à Dieu, et appartient bien sûr à l'épouse, à la femme, à l'épouse de Dieu, qui est Israël. Il n'y aura pas de doute. Israël sera auprès de Dieu pour définir la ligne, la conduite du royaume de Christ. Alors, y a-t-il autre chose à dire concernant Israël ? Nous allons aller voir dans le livre de Daniel, au chapitre 12. Versets 7 et 8. Daniel, chapitre 12, versets 7 et 8. Je vais commencer au début du chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, donc c'est la période qui précède le royaume de Christ, une période où Israël est réellement martyrisé pour pour ne pas être là au rendez-vous, pour ne pas être là. Ça serait une attaque aussi puissante qu'à l'époque d'Hitler, avec l'extermination d'Hitler, la Shoah. Ça serait une attaque satanique encore pour faire disparaître ce peuple et qu'il ne soit pas là au rendez-vous avec Christ. Car nous savons bien que Christ est accueilli par Israël. C'est Israël qui dira à Jérusalem, béni soit celui qui vient au nom de l'Adonai, au nom de Dieu, psaume 118. Alors, il y aura une époque de détresse, c'est-à-dire des souffrances insupportables pour ce peuple, telles qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, Ézéchiel 37, hein, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et ça, nous trouvons ce texte dans 1er Thessaloniciens. Lorsque Christ revient, il y a la résurrection des justes. Et il y a bien sûr plus tard, les textes le disent dans Apocalypse, vers la fin de Apocalypse, la résurrection des injustes. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, donc la sainteté, à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc il y a une promesse, c'est clair, pour les serviteurs de Dieu, du peuple de Dieu, du peuple de Dieu, d'Israël. Voilà. Et évidemment, cette attaque de la fin des temps sur Israël est extrêmement violente. À la fin du verset 7, vous voyez que la force du peuple saint sera entièrement brisée. Il y a encore un anéantissement moral et, à mon avis, matériel, économique et tout, militaire, de ce peuple. Et au verset 8, Daniel dit, « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Vous voyez l'inquiétude de Daniel qui aime son peuple et qui croit vraiment en Dieu, le Dieu d'Israël. Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et puis alors, vous avez bien sûr une description d'une période avec des chiffres qui nous annonce bien sûr l'abomination dévastateur, c'est l'Antichrist qui voudrait se faire adorer dans le temple. Mais ça, c'est trop long à expliquer. Le Satan voudra se faire adorer à la place de Christ à Jérusalem, sur le mont du Parvis, quand le temple sera reconstruit pour une courte durée par les Juifs, ou en tout cas par des gens qui veulent plaire aux Juifs. Alors, nous voyons que la force du peuple saint sera entièrement brisée, mais que, verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Donc, il y aura une purification du peuple, il y aura une sanctification du peuple, et il y aura un salut pour un reste en Israël. Et prenons Romains 11. Romains 11. Comment des peuples dits chrétiens sont-ils devenus antisémites et ont-ils fait tellement de mal à Israël? Mais tout simplement parce qu'ils ne lisaient pas la Bible, ou ils la lisaient avec des lunettes de bois, c'est-à-dire en choisissant les passages qui les arrangeaient, qui leur donnaient avantage pour être sages à leurs propres yeux. Et tout ce qui pouvait donner une considération à Israël était mis de côté. C'est regrettable, même Luther n'a pas été très élégant envers Israël à la fin de sa vie. C'est regrettable, c'est scandaleux. Mais en tout cas, toujours est-il que Romains chapitre 11, au verset, je vais commencer au début. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a choisi. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. Donc vous voyez à quel point la hargne diabolique contre le prophète Élie et tous les autres prophètes. Hein. La harne diabolique est très puissante contre les vrais enfants de Dieu en Israël. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Donc, c'est Dieu qui répond cela à Élie. Non, 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 il y en a 7000, tu n'es pas tout seul. Il y a un peuple. Il y a un peuple qui m'est resté fidèle et qui, quoi qu'il lui arrive, est attaché à moi et à ma parole. Verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, l'élection de la grâce est quelque chose d'extrêmement important. Verset 7. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas encore obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Donc, Dieu a un plan sur Israël. Même si Israël n'a pas encore, tout Israël n'a pas connu Christ, et le pardon des péchés à la croix, eh bien, Dieu, dans son plan, a décidé qu'Israël serait sauvé et viendrait à Christ et serait sauvé par le sang de Jésus à la croix. Donc, il y aura un changement. Il y aura un changement. Verset 11. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Est-ce pour être condamnés à jamais, pour ne plus revenir à Dieu ? Qu'ils ont bronché, donc ils ont condamné Jésus, qu'ils ont refusé l'évangile. Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. C'est-à-dire qu'ils aient le désir puissant, un jour, de connaître Jésus, de se donner à Christ, comme les autres nations. Si leur chute a été la richesse du monde, donc l'évangile s'est répandu à travers le monde, leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous ? Alors, je vais plus loin. Verset 25. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Donc les chrétiens ne doivent pas se regarder comme sages. C'est déjà un problème au début du premier siècle, vers les années 55. Imaginez ce qui est arrivé après. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, donc là, les Juifs qui ont tué Jésus, qui ont refusé aussi l'Évangile après, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc il y avait quelque chose en vue derrière tout ça, c'est que les païens soient convertis, et puis ensuite Israël revient, était appelé, était déjà programmé pour revenir à l'Évangile. Donc, au verset 28, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Donc, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Moïse. Mais, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc, il est clair que Israël sera l'objet de la miséricorde divine. C'est extrêmement important. Il y aura une abondance de grâce pour Israël pour vivre en Christ. Prenons Isaïe chapitre 8. Isaïe chapitre 8. Verset 5. L'Éternel me parle encore et me dit, nous sommes en 780 avant Jésus, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, donc les eaux de l'envoyé du Messie, hein, c'est le canal de la piscine de Siloé, le canal, il y a une inscription dans ce canal qui a été fait le temps d'Ézéchias pour alimenter Siloé et Bethesda, eh bien, c'est le canal de l'envoyé du Messie. Qui coule doucement et qui s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia. Donc ce peuple-là a méprisé les eaux que Dieu envoyait pour les sauver et il s'est réjoui des ennemis, de gens mauvais. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi de Syrie toute sa gloire. Donc nous revoyons encore l'image des fleuves qui crachent de l'eau, comme dans l'Apocalypse, le dragon crache de l'eau du fleuve sur Israël pour le détruire. Il s'élèvera partout Au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives, il pénétrera dans Juda, et débordera, inondera, il atteindra jusqu'au cou. Donc c'est arrivé en 605, 603, 598, et ça arrivera dans Ézéchiel 38. Et pensez bien que déjà quand Abraham est en Judée, tous ces rois viennent envahir la vallée du Jourdain, etc. Ils prennent Lot. C'est une maladie spirituelle chronique de ce peuple d'Assyrie. Alors, il pénétrera dans Juda, il débordera, il inondera, il atteindra jusqu'au cou. Donc, c'est une puissance incroyable. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Nous voyons ici que le pays d'Israël porte le nom de ô Emmanuel. Israël est appelé Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alors, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Effectivement, Alexandre le Grand a brisé tous ses peuples, hein, les maîtres des Perses, etc. Et préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Finalement, Dieu a toujours été avec Israël, malgré de lourdes épreuves. Et qu'est-ce qu'il est promis à Israël? Versets 13 et 14. L'Éternel des armées que vous devez sanctifier, celui que vous devez craindre et redouter. Donc pas la Syrie, pas l'Égypte, pas d'autres ennemis. Il sera un sanctuaire, donc Dieu, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, donc les 10 tribus du nord et 2 tribus du sud. Donc la pierre d'achoppement, le rocher de scandale, bien sûr, nous savons que c'est Christ. Et un piège pour les habitants de Jérusalem. Nous voyons bien que cette pierre d'achoppement, ce rocher de scandale, eh bien, est annoncé rapidement à la fin du chapitre 8 et au chapitre 9, où l'enfant né de la Vierge sera appelé le Dieu puissant, le Père éternel, etc. Donc, il y a un lien extrêmement fort entre ces textes. Alors, regardons encore dans Ésaïe, au chapitre 51. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez un chapitre 53 qui est majeur dans Ésaïe et dans l'Ancien Testament. C'est un chapitre extrêmement important. Il décrit le sacrifice de Christ pour les péchés du peuple. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Il décrit que ce Messie va souffrir pour son peuple. C'est d'abord Israël, son peuple. Puis ensuite, par extension, tous ceux qui seront nés de nouveau avec Israël, grâce à Christ. Donc, il faut faire attention, lisez bien ce texte. Ce n'est pas un passage de la Bible qu'il faut ignorer. C'est essentiel pour comprendre qui est Jésus dans le Nouveau Testament. Et il a été mis à mort pour les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables, et évidemment pour Israël et pour tous les autres. Lisez attentivement ce peuple, ce texte, et vous verrez. Vous lisez à partir du chapitre 52, verset 13, et tout le chapitre 53. Maintenant, à l'entour de ce beau passage qui nous parle du sacrifice de Christ pour Israël et pour les peuples qui viendront à Christ, ensuite, il y a des chapitres qui encadrent. Les chapitres 51 et 52 sont excellents. Et qu'est-ce qu'il a annoncé pour Israël? D'abord, au chapitre 50, c'est que Dieu dit au verset 2, « Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis le fleuve en désert, etc. » Et donc, Dieu a une oreille. Il a une oreille très puissante, il a une main très puissante, Et nous voyons dans ce texte, au chapitre 50, que Dieu prend une position incarnée déjà, qui est tout à fait celle de Christ. Verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble. Alors, vous avez un texte là qui montre que Dieu vient sauver par le serviteur souffrant. À la fin du chapitre, vous avez encore des versets qui vous décrivent une scène juste avant de l'arrestation au Mont des Oliviers, verset 11. « Vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. » C'est par ma main que ces choses vous arriveront, vous vous coucherez dans la douleur. Et puis alors, vous avez 51, où le peuple d'Israël est appelé à porter les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Donc pour les Juifs qui cherchent la justice, c'est-à-dire le pardon des péchés et la sainteté, qui cherchait l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Le rocher est en Dieu, bien sûr, est en Christ. Portez le regard sur Abraham, votre père, sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouvent au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, donc la loi vivante c'est Christ, j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Christ, la loi vivante incarnée. Ma justice est proche, mon salut va paraître, mes bras jugeront les peuples. Donc vous avez ici la promesse d'un salut, complètement, radicalement, avec une restauration d'Israël. Lisez tout ce chapitre, et vous allez voir que la puissance de Dieu pour sauver Israël est tout à fait promise et certaine. Verset 15. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Pensez à Jésus dans la barque, avec ses disciples. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, lève-toi Jérusalem qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. Vous avez donc un réveil spirituel. Après la colère de Dieu sur Israël, vous avez un réveil. Et Dieu s'adresse à Israël, tu es mon peuple. Chapitre 52, réveille-toi, revêt ta parure Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Et lisez tout ce chapitre, et vous allez voir que Israël a une place essentielle. Verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Comme dans Isaïe 65, verset 1, ceux qui ne me cherchaient pas, je dirais me voici et me voici. Ça, il s'agit d'Israël de nouveau. Alors, vous pouvez compter sur les promesses de Dieu. Elles sont certaines pour Israël. Verset 12. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, le Dieu d'Israël fermera votre marche. Comme à l'époque de Moïse, pour la sortie d'Égypte, le passage en mer Rouge. Il y a un temps de libération totale pour Israël. Chapitre 53. Le salut par le sang de Christ et la résurrection de Christ, la glorification de Christ sont décrites. Ensuite, au chapitre 54, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Donc Israël, qui ne produisait plus de prophètes, qui n'a produit que des faux prophètes comme Freud ou Marx, etc., cet Israël va redonner vie, va avoir une fonction essentielle de transmission de vie. Et pensez au texte que nous avons lu tout à l'heure, au chapitre 7, hein, chapitre 14, des 144 000, 12 000 de chaque tribu. Alors, dans cet Israël, qui est comparé à une immense tente, voici ce qui est dit, au verset 2, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, donc n'empêche pas des personnes de venir d'autres peuples, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. » Donc l'ancien temps où Israël désobéissait à tous les prophètes, au temps où on a crucifié Christ. « Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage dans toute cette période d'une vingtaine de siècles où Dieu semblait être absent de la vie d'Israël, et où Israël était comme abandonné. Car ton Créateur est ton époux. » Donc nous avons au verset 5 l'affirmation « Dieu est l'époux d'Israël ». Et l'épouse, c'est Israël, la femme de Genèse 3,15. Et je lis les versets 7 et 8. « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. » Verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, ça a été le cas d'Israël souvent, dans toute l'histoire, sous les attaques d'Hitler, mais de tous les pogroms en Russie, etc., de tous les antisémitismes possibles. « Voici. » Je garnirai tes pierres d'antimoine, je te donnerai des fondements de saphir, je ferai des créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, toute ton enceinte de pierres précieuses. La description d'Israël, de la Jérusalem, à la fin de l'Apocalypse. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Fin du verset 17. Tel est l'héritage de serviteurs de l'Éternel, tel est celui qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et au chapitre 55, vous avez le don gratuit du salut, le don de la grâce. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, donc au Saint-Esprit. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Donc ça c'est Ésaïe 25, c'est le banquet final, la super grande noce de Cana. En Ésaïe 25, versets 5 à 9, où toutes les nations se rassemblent, où le voile de la mort est supprimé, où il n'y a plus ni douleur, ni chagrin, ni deuil. Et tout compte fait, Israël a une place essentielle. Au chapitre 56, verset 6, « Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera pleine maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. » Fondamentalement, Israël a sa place dans l'économie du salut, une place essentielle, centrale. Ce n'est pas l'Église catholique qui est l'Israël. Il n'y a pas de substitution à Israël possible. Ce ne sont pas les églises protestantes ou pentecôtistes qui ont tous les grands charismes d'Israël, des Actes des Apôtres. S'il y a des miracles qui se font et des prodiges, comme à l'époque des Actes des Apôtres, à la fin des temps, c'est d'abord les 144 000 qui ont une puissance apostolique importante, et qui auront des signes de puissance pour amener tout l'Évangile à régner sur terre. Mais nous n'avons pas à nous approprier les signes qui sont particuliers aux Actes des Apôtres et qui seront sans doute, qui renaîtront à la fin des temps quand Israël aura une mission messianique dans le monde. Alors, que faut-il dire de tout cela? C'est que Israël ne peut pas être haï et mis de côté. Jamais. Et c'est, il faut bien comprendre que pour Satan, Israël est un obstacle majeur. Si Israël est au rendez-vous de Dieu, psaume 118, ça veut dire que lui, il a tout raté. Donc il faut absolument, et c'est pour ça qu'il va redoubler, comme il l'a déjà fait, il va redoubler pour essayer de détruire Israël. En vain, évidemment. Psaume 118. Verset 20. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre, c'est Christ. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Donc le prodige de la résurrection et de la glorification, de l'exaltation de Christ et de sa position glorieuse, tout cela, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous lisons cela dans Luc 13, au verset 35. Et béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Cette parole, Jésus a bien dit clairement dans Luc 13 que c'est il reviendra quand on lui dira à Jérusalem cette parole. Donc c'est réellement quelque chose qui est programmé et qui s'accomplira. Alors, Satan ne peut pas supporter la postérité, évidemment, de Christ. Prenons Matthieu. Il essaye, il ruse. Il ruse. Dans Matthieu 4, au verset 8, le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, c'est sans doute Jérusalem, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, donc tout ce qui peut être pétillant, scintillant, attirant, pour des humains évidemment. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Jésus ne s'est jamais compromis avec Satan. Et Satan n'a pas eu ce plaisir de séduire Jésus comme il a séduit Adam et Ève. Jésus est le nouvel Adam qui a réussi son épreuve, son examen. Le tentateur n'a aucune autorité sur lui. Et le tentateur n'a même pas d'autorité sur la mort de Jésus. Sur la mort de Jésus. La mort de Jésus n'est pas un échec. Elle est une victoire. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, les enfants participent au sang et à la chair. Quand il s'agit des enfants, il s'agit d'abord d'Israël. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, sa mort sur la croix évidemment, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il ne meurt pas à cause d'un péché. Il meurt pour payer la dette d'Israël et de tous les peuples. La dette qu'ils ont à l'égard, que nous avons à l'égard de Dieu. Et pour réparer l'offense, pour apaiser la colère de Dieu. Donc la mort est expiatoire et propitiatoire. Et la mort de Jésus a satisfait à la sainteté de Dieu. Elle l'a satisfait à la dette. Et la dette a été acquittée. La porte du ciel a été ouverte. Le voile du temple a été déchiré. Et l'accès à la vie céleste est possible à la suite de Jésus. Donc, la puissance de la mort n'existe plus. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jésus a dit aussi ceci, celui qui croit en moi, qui garde ma parole, la met en pratique, est passé de la mort à la vie, ne vient point en jugement. Donc, je continue à lire, Hébreux 2, il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Postérité d'Abraham, c'est d'abord Isaac, Jacob, les Juifs. Ensuite, le Christ. C'est dans Galates que nous voyons que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Et nous voyons que tous ceux qui croient en Christ sont la postérité d'Abraham. Prenons l'épître aux Galates. Prenons l'épître aux Galates. Frères, Galates chapitre 3, verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute, en disposition un testament. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « aux postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Deux points. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà ce que Paul explique. La postérité d'Abraham, qui est décrite, qui est annoncée dans Genèse, c'est Christ. Alors, en Christ, ceux qui croient en Dieu et qui ont demandé pardon sont fils, sont les fils d'Abraham. Sont les fils d'Abraham. Alors, je continue à lire. Galates, je ne peux pas tout lire, évidemment. Chapitre 3, verset 22. L'Écriture a tout renfermé sous le péché, donc tous les hommes, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient en Jésus-Christ. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, les 10 commandements, en vue de la foi qui devait être révélée. La foi, dès que Jésus vient, et qu'il donne la foi aux disciples, après sa mort et sa résurrection, par le Saint-Esprit, la puissance de la foi est donnée aux disciples. La puissance, c'est l'authenticité, la vérité de la foi. C'est un don de Dieu, Éphésiens 2, 8. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Baptisé en Christ, c'est-à-dire dont votre péché a été crucifié à la croix et dont votre vie nouvelle à la résurrection a été donnée par Christ. D'abord ça, le baptême de Christ, c'est la croix et la résurrection. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous voyons que le salut vient des juifs, passe par les juifs, et qu'Israël a une fonction essentielle dans l'économie du salut du monde et dans la fin des temps, dans la bonne gestion du royaume de Dieu. J'espère que vous avez compris que Satan n'arrivera pas à éliminer Israël. Il n'arrivera pas à éliminer l'Église de Christ. Tout au plus, il éliminera les chrétiens charnels, ceux qui ne sont pas en ordre avec Dieu et qui n'obéissent pas. Matthieu 7, 21, qui ne font pas la volonté du Père. Mais pour ceux qui font la volonté du Père et qui vivent selon le Saint-Esprit, qui marchent par l'Esprit de Christ et par sa parole, ne peuvent qu'être que vainqueurs en Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Paul le dit en Romains 8. Romains 8. Et j'en termine. Verset 28. Romains 8:1. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et qui aiment Dieu, évidemment. Car ceux qu'il a connus d'avance étaient déjà aussi prédestinés à être semblables à son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs de ses frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, c'est-à-dire innocentés, déclarés justes, pardonnés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc même pas Satan. Ou des représentants de Satan. Hein? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, le péril, l'épée? Verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Israël est inclus. Est inclus. Israël est inclus et central dans toutes ces paroles. Ne jamais, jamais mettre Israël en dehors du salut qui a été destiné à son peuple élu et ensuite aux nations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la paix et vous prépare à cette belle fête de Pâques.